Depuis 2003, on assiste à un durcissement des mesures en matière de politique d'immigration, ce qui se traduit par la précarisation du séjour des étrangers, mais aussi le renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière. Et souvent, on voit le point de vue soit des politiciens, on va analyser le discours des hommes politiques, ou bien on va se placer du côté des migrants et voir leur trajectoire. Mais la question qu'on va se poser ce soir, c'est comment ça se traduit du côté des guichets, c'est-à-dire de ceux qui reçoivent les migrants, de toute l'administration chargée du contrôle de l'immigration. Donc c'est pour ça qu'on invite ce soir Alexis Spire. Bonsoir.
Bonsoir.
Alexis Spire, tu es donc sociologue, chargé de recherche au CNRS, membre du comité de rédaction de la revue Politics, et tu dispenses aussi des cours de sociologie de l'immigration en master sciences politiques à Lille 2, je ne sais pas si c'est toujours le cas.
C'est ça, exactement.
Et en fait, tu as publié l'année dernière, en octobre 2008, un livre qui s'appelle « Accueillir ou reconduire », une enquête donc, sur les guichets de l'immigration, et ça a été publié dans la collection « Raison d'agir ». Alors, la question que je me pose en tout premier lieu, c'est qu'est-ce qui t'a mené à faire cette enquête ?
En fait, ça fait... D'abord, merci de me donner la possibilité de parler de ce livre ce soir. Ça fait plusieurs années, en fait, hein, que je m'intéresse à la question des politiques d'immigration. Et j'étais venu parler du précédent livre, d'ailleurs, qui s'appelait « Étrangers à la carte », à cette même antenne. En fait, ce qui m'a amené à travailler sur l'immigration, d'abord, c'est... évidemment un intérêt pour une question politique, un intérêt à la fois scientifique, parce que je pense qu'il y a des choses du point de vue de la sociologie à tirer de cette question-là, mais aussi un intérêt politique et même militant, puisque c'est pour refaire un peu l'ensemble de la démarche, c'est au moment du mouvement des sans-papiers de Saint-Bernard, en fait, hein, que j'ai commencé à être investi dans des collectifs, à faire des accompagnements en préfecture. Et en faisant ces accompagnements en préfecture, j'étais frappé en fait par le décalage que je voyais entre l'arsenal juridique, des politiques, du droit, et puis ce qui se passait concrètement au guichet et l'écart entre les deux. Et surtout, j'étais intrigué en fait par les gens qui étaient derrière le guichet et la façon dont ils fonctionnaient, la façon dont ils appliquaient le droit. Et donc c'est un peu cette expérience-là qui m'a amené à regarder les politiques d'immigration de ce point de vue-là. Alors j'ai fait un long détour, on va dire, pour aborder cette question-là, un détour historique justement, hein, qui m'a amené à faire ce livre sur la question de la politique d'immigration vue des guichets de 45 à 75. Mais j'avais toujours dans l'idée, donc ça c'était un travail assez académique, universitaire, là c'est un travail plus militant et en tout cas prise de position sur l'actualité, de revenir sur l'actualité. Et donc c'est pour ça que en tirant profit, on va dire, de la réflexion que j'avais menée à partir des dossiers individuels et des dossiers d'archives, j'ai fait ce petit bouquin avec toujours dans l'idée qu'il se passe au niveau du guichet et dans ces interactions entre les étrangers et les agents quelque chose de particulier qui n'est pas exclusivement du droit, qui n'est pas exclusivement de la politique et en même temps d'assez fondamental, à la fois pour les étrangers parce que c'est l'expérience qu'ils ont de l'administration et de l'État qui se joue ici, et puis du point de vue des agents parce qu'ils font plus que appliquer de façon neutre le droit. Ce que je dis, hein, c'est que souvent on est coincé entre deux images du guichetier, soit le guichetier qui fait que appliquer finalement et qui donc aurait un rôle complètement neutre, hein, de support neutre ou de vecteur neutre de la loi, et puis à l'opposé on pourrait dire la figure du guichetier raciste, xénophobe qui veut à tout prix disons tout faire pour mettre des bâtons dans les roues d'étrangers. Évidemment les deux existent, mais en même temps tout existe, hein, dans la réalité sociale, mais ce que j'ai essayé de montrer là, c'est que il y a beaucoup plus à dire en tout cas sur cette relation là et que ces deux figures caricaturales, on va dire, du guichetier.
Et avant de revenir sur vraiment les éléments de l'enquête, enfin comment tu as pu mener cette enquête, d'abord précisons peut-être les choses au niveau de qu'est-ce que c'est que les guichets de l'immigration. Quand on dit les guichets, qu'est-ce que c'est, et les guichetiers, voilà, à peu près ça, pour se faire une idée.
Alors moi, l'enquête que j'ai menée, alors c'est vrai qu'il faut préciser que c'est dans différents services et surtout différentes administrations, puisque moi j'ai travaillé beaucoup en préfecture, Donc ça, c'est le cœur de l'ouvrage, on va dire. Hein. C'est le travail des agents de préfecture. Mais aussi, j'ai complété par deux enquêtes. L'une dans les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre, qui sont chargées... qui elles aussi exercent un pouvoir discrétionnaire, qui sont chargées d'accorder les autorisations de travail. Et on voit que dans la période actuelle, où la régularisation par le travail est redevenue une possibilité d'accès au séjour, ce rôle-là est crucial. Et puis, les guichets des visas, c'est-à-dire dans les consulats français, dans les pays étrangers. Là aussi, il y a quelque chose, à mon sens, qui se joue de totalement crucial, dans le sens que le centre de gravité de la politique d'immigration s'étant déplacé, disons, à l'extérieur des frontières, c'est bien souvent dans ces guichets un peu à l'abri et mal connus que se joue une bonne part, on va dire, de la maîtrise des flux migratoires et du contrôle des frontières. Donc c'est ce que j'appelle les guichets de l'immigration, en tout cas dans ce livre, c'est ces trois services-là. Et je pense que, les autres enquêtes que j'ai pu mener par ailleurs me laissent penser qu'on pourrait généraliser à d'autres types de services. Je mentionne des travaux sur l'OFPRA, sur la commission des recours. Je pense aussi à la sous-direction des naturalisations, sur laquelle j'ai travaillé pas mal. L'hypothèse qui est au cœur du livre, hein, c'est l'idée que tous ces services-là appartiennent à des ministères différents, des traditions ministérielles différentes, et pourtant, il y a une sorte de sens commun bureaucratique commun à tous ces services et qui façonne justement, qui modèle la politique d'immigration. Alors ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il faudrait préciser quand même que guichet, là aussi, il faut aller contre une idée reçue. Hein, l'agent qui reçoit n'est pas celui qui décide. Et donc, j'ai pris le terme de guichet au sens large, en fait, pour dire, les agents subalternes, parce que ce n'est pas tellement la figure du guichetier derrière son bureau, même si, évidemment, c'est celle qui incarne cette politique d'immigration. Mais beaucoup plus largement, ce que j'appelle les guichetiers, en fait, ou en tout cas les agents subalternes, ce sont à la fois les guichetiers, mais aussi ce qu'on appelle les rédacteurs qui travaillent... qui travaillent un peu en coulisses et qui vont instruire les dossiers, les chefs de bureau, les vérificateurs. Enfin voilà, c'est tout cet ensemble d'agents subalternes qui sont chargés d'interpréter les circulaires qui sont déjà elles-mêmes des interprétations de la loi.
Et pour mener à bien cette enquête, donc comment ça s'est passé? Ça s'est étalé aussi sur plusieurs années pour toi?
Alors en fait,
l'enquête précise qui a donné lieu.
En fait, ce petit ouvrage est la synthèse de plusieurs enquêtes qui sont un peu mises bout à bout et que j'ai menées pendant plusieurs années. À l'origine en fait de ce projet, c'est le fait que juste après ma thèse, donc et ce long travail sur l'histoire des politiques d'immigration, j'ai eu envie de travailler sur l'actualité avec la conviction que pour rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la boîte noire du pouvoir discrétionnaire des agents de l'État, il y a plusieurs manières que quand on l'aborde du point de vue historique, la méthode des archives donne certaines clés parce qu'on a accès aux dossiers individuels, aux décisions individuelles, éventuellement les entretiens avec des personnes qui ne sont plus en service. Quand on aborde la chose du point de vue contemporain, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le terrain est beaucoup plus miné politiquement, il est beaucoup plus difficile d'accès. Et donc là, j'ai pris le parti, c'était un peu un pari en fait, quand j'ai eu terminé, de faire ce qu'on appelle en sociologie de l'observation participante et de me faire embaucher en fait comme guichetier vacataire pendant un mois, comme job d'étudiant, job d'été, dans un gros service de préfecture qui accueille beaucoup d'étrangers et qui a beaucoup d'agents, en fait, hein, que je ne mentionne pas dans le livre, parce que pour des questions d'anonymat, sinon ça serait trop facile de retrouver les agents et c'est pas l'objet du livre, en fait. Hein, c'est pas de dénoncer, évidemment, tel ou tel service. C'est justement le pari qu'il y a une généralisation qui est possible à partir d'une enquête empirique précise. Donc je me suis fait embaucher pendant un mois, et pendant un mois j'ai donc partagé le quotidien d'un service chargé à la fois de donner des autorisations provisoires de séjour à des demandeurs d'asile, mais aussi plus généralement, parce qu'ensuite j'ai bougé, j'ai demandé à changer de bureau et à changer de guichet, donc au niveau de l'attribution de titres de séjour plus largement en fait.
Et ils ne savaient pas qu'ils embauchaient un sociologue? Il pensait pas qu'il allait avoir ce regard.
Alors non, j'ai pas
regard.
Menti. J'avais une position qui était un peu particulière. En fait, pendant tout ce travail, D'abord, dans ma lettre de motivation, j'ai dit que j'étais en thèse de sociologie. J'ai dit que je travaillais sur l'immigration. C'est quand même la la police, donc on peut pas totalement dire n'importe quoi. Mais j'ai plutôt, on va dire, menti par omission, dans le sens où j'ai toujours laissé penser que quand j'ai posé cette candidature, que je m'intéressais à la question de l'immigration et en fait que je m'intéressais aux étrangers et que pour moi c'était un point d'observation pour voir les étrangers et analyser leurs stratégies, analyser leurs demandes, analyser leurs comportements. Et en fait, pendant tout ce temps d'observation et d'observation participante, j'ai joué sur cette ambiguïté et sur le fait que de fait j'étais sociologue, de fait je le prenais comme un job d'été parce que j'étais étudiant, mais en jouant sur l'ambiguïté et sur le fait que en laissant penser que ce qui m'intéressait c'était de regarder les étrangers, alors que en fait mon objet d'étude était beaucoup plus de regarder ce que faisaient mes collègues plutôt que de regarder ce que faisaient les étrangers qui venaient à mon guichet.
Alors, on a vu un petit peu qu'est-ce qu'étaient les guichets, mais qui sont les guichetiers ? Comment est-ce qu'on pourrait donner une idée de qui se trouve, quelle est la population qui se trouve derrière les guichets, principalement ?
Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, là aussi, peut-être aller contre une idée reçue, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est important, hein, c'est que... Il y a souvent une idée qui traîne, c'est que ne vont dans ces services que ceux qui sont vraiment adhérents à la politique d'immigration ou disons très tentés d'appliquer des lois très restrictives vis-à-vis de l'immigration. En fait, on se rend compte en faisant des entretiens informels avec les gens qui travaillent là que la très très grande majorité des gens qui travaillent là, en fait, n'ont pas choisi ces services. Ils sont là un peu par hasard. Ou alors plutôt, soit par hasard, soit contraint, en fait, hein, parce qu'on ne leur a pas fait choisir le service. Il y en a quelques-uns qui ont choisi le service d'immigration. D'ailleurs, parfois, c'est parce qu'ils se disent que comme ça, ils vont voyager un peu dans leur tête à défaut de voyager, en vrai. Enfin, donc, ça, c'est vraiment très, très varié, les raisons qui poussent. Mais en tout cas, il n'y a pas de... à chaque fois, ce qui m'a frappé, c'est que... je pense qu'on met beaucoup plus de dimension politique, disons, dans la tête de ces guichetiers-là, que eux n'en mettent, en tout cas dans le travail qu'ils effectuent. Et donc ça, c'est le premier point. Ils viennent d'horizons très différents. Et c'est pour ça aussi que y a une très grande variété de générations, d'expériences sociales, de niveaux de diplôme, de... là aussi, hein, c'est vraiment un kaléidoscope de ce qu'on peut retrouver dans d'autres services de la fonction publique en période de crise, c'est-à-dire où il y a pas mal de gens qui viennent là pour à défaut, enfin faute d'avoir trouvé ou au contraire faute d'avoir trouvé autre chose ou en ayant passé des concours un peu en rafale et en ayant par hasard eu celui-là. En revanche, donc ça, c'est au départ, j'ai envie de dire. En revanche, justement, ce qui est frappant, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est qu'il y a tout un travail de l'institution pour transformer ces gens très variés, très différents, et pour en faire, alors, non pas un agent uniforme, interchangeable, parce que l'institution n'a pas cette puissance-là, mais en tout cas, pour construire un socle commun, une espèce de, ce que je disais tout à l'heure, de sens commun bureaucratique partagé par tous ces agents. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite, il n'y a pas des différentes manières, et là aussi, c'est ce que je défends, c'est ça qui est un peu compliqué, en fait, dans le tableau que j'essaie de dresser, c'est qu'il y a à la fois ce socle commun, on y reviendra sans doute, hein, mais qui est fait de représentations, d'a priori sur la question de la fraude, sur la question de ne pas perdre la face, sur la question de se protéger en tant que guichetier, etc., que partagent les guichetiers. Et puis, au-delà de ce socle commun, il y a des manières ensuite de varier. Et selon ce que j'ai essayé de rapporter à des positions sociales et à des trajectoires sociales, il y a des manières d'endosser le rôle malgré tout, de croire en sa mission ou en tout cas d'endosser le rôle que la hiérarchie assigne. Et ce qui fait qu'il y a différents types de guichetiers malgré tout. Voilà.
Je pense qu'on y reviendra un peu plus long aussi dans l'entretien. Mais petite question, mais par rapport à ces guichetiers, est-ce que c'est vrai qu'il y a quand même une dominante de femmes et aussi de gens issus de l'immigration ?
Alors ça, c'est ce qui est frappant, en fait. Alors, quand, la première... Alors le fait qu'il y ait plutôt des femmes, j'ai envie de dire, ça, c'est commun à d'autres services de l'administration. On est dans des postes d'agents subalternes, de bureaux, et donc des services plutôt féminisés, avec là, voilà, disons... quelque chose qui n'est pas fait forcément spécifique à des services d'immigration. Peut-être ce qui est perçu parfois comme une composante spécifique de ces services, c'est effectivement le fait que quand on regarde ces agents-là, de fait, on est frappé par la surreprésentation, on pourrait dire, alors pas forcément des gens issus de l'immigration, mais en tout cas des gens de couleur. Qui sont en fait qui ont deux types de trajectoires, pour le dire vite, hein, soit originaires de l'outre-mer, soit de parents immigrés ou de parents étrangers. Et là aussi, c'est je pense qui se retrouvent là aussi dans pas mal de services, hein, je pense que c'est pas du tout propre au service dans lequel j'étais, et c'est une constante que retrouve aussi un certain nombre de militants qui font de l'accompagnement en préfecture, qui est souvent interprétée comme ah ben la préfecture comme ça, ou l'État comme ça, se garde de tout comportement raciste, parce que justement elle fait appliquer la législation par des personnes qui par définition ne peuvent pas être soupçonnées de... dans le livre justement, je pense pas qu'il y ait une vision complotique comme ça des institutions à ce point. Et ce que je défends plutôt comme causalité, c'est l'idée que on a affaire là à des services qui sont où les conditions de travail sont difficiles, où la charge de travail est très très lourde, qui est des services de relégation, pour le dire vite, hein, où les gens ont pas envie d'aller, ou quand ils y vont, c'est souvent contraint et forcé. Et du fait même de la position sociale des personnes issues de l'immigration ou originaires de l'outre-mer dans l'administration, c'est précisément parce que ces personnes ont un statut de relégation qu'elles se retrouvent assignées, on pourrait dire, dans ces positions de relégation. Alors ça ne change pas grand-chose, mais à mon avis, dans la compréhension du fonctionnement de l'administration, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, surtout aussi pour bien voir que la plupart des interactions ou des pratiques que j'ai observées, c'est absolument pas une garantie là pour le coup d'une quelconque sensibilité à ce que serait le vécu des immigrés ou quoi que ce soit. C'est là pour le coup très très directement lié à la trajectoire et selon la façon dont ils endossent le rôle, ça peut donner des pratiques très différentes, des pratiques à l'opposé. Donc là, j'ai à la fois insisté sur cet aspect-là, tout en essayant de souligner que ça me semblait pas être un critère d'explication des pratiques de ces agents.
Oui, ça modifie pas forcément. Enfin, au niveau de l'interaction, finalement, on verra que ça va être le groupe des guichetiers par rapport aux étrangers.
Oui, parce qu'en fait, pour rentrer dans ce détail-là, en fait, tous les cas de figure sont possibles. C'est-à-dire que il y a le à la fois le cas de figure j'ai en tête hein, des personnes par exemple de tel agent originaire des DOM-TOM qui va d'une certaine manière surjouer l'appartenance à la nation française et du coup se placer plutôt dans la surenchère de il faut que ils en rabattent dans le en tant que demandeur de titre et il faut qu'il fasse preuve de docilité, de bonne volonté, d'abnégation, etc., etc. Et donc ça va se traduire par plutôt des positions de fermeté. Et puis à l'inverse, celui qui va s'identifier justement moi j'ai fait déjà l'expérience de la discrimination, donc je m'identifie à ce qu'il rencontre, etc. Donc encore une fois, je pense pas qu'on puisse faire de cette variable-là une variable structurante. En revanche, il y a des variables plus lourdes, plus déterminantes du type de l'ancienneté dans le service. Moi, ça, je pense que c'est extrêmement important pour comprendre. C'est ce que je défends en tout cas dans le livre, hein, c'est que il y a des très très grandes différences aussi. Et derrière cette variable de l'ancienneté dans le service, en fait, c'est très clairement le fait de la différence entre ceux qui ont les moyens de partir de ces services et ceux qui sont assignés en fait à ces positions et qui peuvent pas en partir et qui donc sont condamnés à y rester et étant condamnés à y rester, condamnés à endosser des positions de répressives.
المقدم ميشيل شكرا في مؤامرات في مصر مانيتو بوهلام.
On the river Nile, but now the prophet came with a bad new style. Smoking cigars, using mobile. Mr. Mastercard man is not coming down from the sky. Chemise froide qui met en valeur ses poils. Mr. Beach parle ses pas. Il a goûté toutes les gammes. Il veut que toutes les femmes la dirigent, que toutes les femmes la clament. Michel est grand comme un ange, c'est Michel-Ange. Chez Daniela, les yeux de Brad Pitt et s'en sert comme d'une sarabacane. Michel est blanc comme un ange, il a des bijoux de chaman. Le soleil veut sa peau et les Rébans aiment son crâne. De Beyrouth à Amman, il bat le crâne et flamme comme un sultan. Ya ya ya. Ce n'est pas un dégueul, il sait aussi se faire petit quand parmi les moutons il belle. Ses narines sont bien pleines, sa vie manque celle. Alors il disparaît pour fumer des cracks dans la poubelle. Il se cherche dans le noir et bien à l'abri du ciel. Pourtant Michel n'est pas une ordure, la preuve, tout le monde l'appelle.
That's not Moses on the river Nile, but another prophet came with a bad new style. Smoking cigars, using mobile. Mr. Mastercard man is not coming down from the sky. Ya, ya, ya.
Michel is a bad rude boy. Michel is a rude boy guy. He came from Sinai. He shows up like a river, walking in the night, dreaming American like a prince of Dubai. He's a double bubble, double bubble, double bubble, double bubble hater, double bubble hater. And don't ask him why. Just try to find what's true and ways alike. Stay with the man, stay. Stay with the man in a, stay with the man in a, stay with the man in a dark. Don't open the light. Stay with the man in a dark like the FBI. Drunk him quiet, they like the Moscow eyes. So follow, 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 follow. So follow like a shadow, the Oriental fly. Ay, 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 ay.
Come again. That's not Moses on the river Nile. There another prophet king with a bad new style. Smoking cigars, using mobile.
Mr. Mastercard man is not coming down from the sky.
Ay, 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 ay.
Nous sommes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Les Oreilles Loin du Front en compagnie du sociologue Alexis Spire pour le premier volet de deux émissions. Alors après avoir vu qui sont les guichetiers du contrôle de l'immigration, eh bien, voyons d'un peu plus près leurs conditions de travail.
Justement, puisqu'on parle des conditions de travail, en fait, tu mets un peu en parallèle, enfin peut-être je vais un peu loin mais tu me reprendras, il y a, on le sait, des conditions d'accueil assez déplorables dans ces services-là pour les étrangers ou les immigrés qui viennent. Mais il y a également des conditions de travail assez dures des agents qui y travaillent. Enfin, il y a vraiment une sorte de relégation totale à la fois des gens qui y travaillent et à la fois du public reçu, quoi.
Oui, et donc ça donne en tout cas effectivement une expérience partagée, on pourrait dire, hein, qui est... voilà, me vient en tête une anecdote. Hein. C'est un agent qui m'avait dit, dans l'esprit des dirigeants de la préfecture, le demandeur d'asile, il est tout en bas, de tout en bas, de tout en bas. Et juste au-dessus, voilà, il y a le guichetier qui l'accueille, mais pas très loin au-dessus. Et en fait, ça résume un peu tout. Hein. C'est pour ça que j'ai utilisé dans le livre le terme, pour qualifier ces agents, le terme de dominant-dominé, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entendais par là ? C'est-à-dire que c'est à la fois Évidemment, ces guichetiers, c'est évidemment un ascendant sur les usagers qu'ils accueillent parce que il y a une grande marge de manœuvre qui est laissée à ces agents, parce que les étrangers sont en situation de pas maîtriser à la fois les codes bureaucratiques, les références juridiques et en position d'assez grande fragilité quand même, de précarité de séjour. Et ce qui fait que c'est clairement pas une relation symétrique, hein, c'est clairement une relation de domination bureaucratique, et c'est ce qui fait que les guichets sont dominants. Et en même temps, des dominants dominés, parce que si on replace maintenant leur position dans la hiérarchie administrative, ils sont assignés dans des lieux de relégation où les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Hein. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, quand j'ai fait ce mois d'observation participante, c'était un mois d'été où il faisait extrêmement chaud, l'été 2003. Il n'y avait pas de ventilation, il n'y avait pas de... donc ça veut dire des conditions... pour les étrangers, extrêmement difficile, mais pour ceux qui les accueillent également, en fait, hein, parce que l'interaction, elle se fait dans les mêmes lieux. Donc, les ordinateurs défaillants, les pannes d'électricité, enfin, tout ça, en fait, hein, les dossiers qui volent, les dossiers qui se perdent, alors c'est encore autre chose, mais tout ça participe d'un univers, effectivement, d'un univers de relégation, où il ne s'agit pas de dire qu'ils sont tous logés, enfin, que guichetiers et étrangers sont logés à la même enseigne, mais de bien avoir conscience que... ils sont, disons, dans le même type de lieu de... Ils exercent et dans le même type de lieu de relégation.
Et par rapport à cette position de relégation, en même temps, vous montrez qu'il y a quand même, entre les guichetiers, ce que vous avez dit un petit peu tout à l'heure, il y a une sorte de hiérarchie des postes. On va avoir, des gens qui vont... Je veux dire, plus leur rapport, d'ailleurs, leur proximité avec l'étranger est lointaine, et plus ils vont avoir peut-être un peu plus de valorisation dans le poste qu'ils vont avoir.
Ouais, ça, c'est ce que j'ai regardé. C'est ce que font beaucoup les sociologues du travail. C'est quand on analyse une situation de travail, c'est de voir quelles sont les tâches nobles et le sale boulot. Et dans les services d'immigration, en fait, il est frappant de constater que... c'est plus effectivement on se rapproche du contact avec l'étranger et de ce qu'il a de plus physique, et plus ça renvoie à des tâches qui sont considérées comme ingrates, comme indignes, etc. La plus dévalorisée étant celle de la prise d'empreinte, parce que il faut prendre la main de l'étranger, prendre ses empreintes, s'y reprendre à plusieurs fois parce que la machine marche pas toujours, machine Eurodac rebaptisée Eurocrate justement parce que les agents supportent pas ce contact. Et puis à l'opposé, on va dire, hein, les positions plutôt nobles, c'est sans doute un bien grand mot, mais en tout cas moins ingrates, on va dire, ces positions de rédacteur qui sont ce qu'on appelle en back-office, où il n'y a pas de contact direct avec l'étranger, où finalement on fait du dossier et on organise son temps un peu comme on veut, et on n'est pas soumis à ce que les agents appellent la pression du guichet. Hein.
Et au niveau, alors vous parlez donc d'un travail donc généralement relégué, qui est très peu valorisé, et pourtant il y a quand même du pouvoir. On a quand même du pouvoir à être au guichet. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un réel pouvoir, ou est-ce que c'est les agents qui ont tendance à surévaluer ce pouvoir ? Comment ça se passe ?
Alors là, pour le coup, si on pose la question du pouvoir, il faut clairement, je pense, différencier les postes. Tout à l'heure, j'ai dit un peu vite que le guichetier n'avait pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir de décision sur le dossier. En même temps, il a malgré tout un pouvoir, c'est ça qui est... il a un pouvoir d'influence, ou en tout cas, il peut... incontestablement, hein, et ça joue sur l'instruction du dossier, puisque c'est lui qui va consigner des remarques dans le dossier sur le fait que la personne parle bien français, ou au contraire qu'elle parle pas français, qu'elle a bien fourni tous les papiers de la première fois, ou qu'au contraire il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, ou que... Autant de remarques en marge, d'indications qui vont servir ensuite au rédacteur, qui n'aura pas l'étranger en face, mais pour prendre la décision. Le rédacteur, ensuite, il a une marge de manœuvre qui est importante. Et alors, pourquoi ? Parce que ce que j'essaye d'expliquer un peu, et ce qui est un peu la thèse du livre, c'est que les législations de l'immigration ont tendance à produire une prolifération de lois, et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette superposition de lois ne réduit pas la marge de manœuvre ou le flou qui pèse sur le droit des étrangers, mais très paradoxalement, on pourrait faire d'accroître la marge de manœuvre justement de ces agents subalternes qui sont chargés de les interpréter alors, et de les appliquer. Alors il y a plusieurs exemples à ça, hein, mais évidemment, c'est pour le dire très très vite, hein, c'est que de plus en plus, on demande à ces agents de porter un jugement au terme d'un entretien, alors que ça soit pour les étudiants étrangers qui veulent faire des études en France, pour les conjoints de Français qui veulent avoir un visa long séjour, pour les résidents, enfin les étrangers en situation régulière qui veulent avoir une carte de résident et qui doivent remplir une condition d'intégration. Tous ces cas-là, finalement, de plus en plus, alors qu'auparavant c'était des accès de plein droit à certains titres de séjour, désormais tous ces cas sont soumis à l'appréciation de ces agents subalternes. Et donc il y a bien, à mon sens, hein, et c'est une des particularités de la période actuelle, mais pas seulement depuis les débuts des années 2000, hein, on pourrait faire remonter ça même un peu plus loin, le fait qu'on laisse de plus en plus de marge de manœuvre à ces agents.
Et d'où vient ce flou juridique? Parce que c'est pourquoi, d'un coup, on va avoir une grande marge d'interprétation par rapport à des
lois.
Alors,
ce que j'essaye de montrer, justement, c'est que ce mouvement, en fait, hein, qui tend à donner de plus en plus de marge de manœuvre aux agents subalternes, il vient de la contradiction, disons, de plus en plus difficile à tenir dans lesquelles sont prises les politiques d'immigration, à savoir que, dans le cas de la France, mais je pense qu'on pourrait faire le même raisonnement sur pas mal de pays européens, on a des pays qui sont signataires de conventions internationales qui sont extrêmement protectrices, en fait, pour les étrangers. On peut penser à la Convention européenne des droits de l'homme, on peut penser à la Convention de Genève, on peut penser à toutes ces normes de droit international qui protègent et qui font que, du point de vue du droit international, le statut des étrangers est beaucoup plus protégé qu'il ne pouvait l'être au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, d'une part. Et puis, d'autre part, donc ces normes protectrices, et puis, d'autre part, une espèce de fuite en avant politique dans la maîtrise des flux migratoires, mais exacerbée à un tel niveau qu'on finit par ériger l'étranger, même plus l'étranger en situation régulière, mais l'étranger en ennemi intérieur, ou en tout cas cible principale de la politique de la politique d'immigration. Et du même coup, ça place les fonctionnaires chargés d'appliquer cette politique dans une série de contradictions, à savoir comment faire pour appliquer la Convention de Genève et donc respecter les droits des personnes demandant à être reconnues réfugiées, tout en appliquant la politique du chiffre telle que la demande Sarkozy depuis 2003, et donc produire de l'éloignement. Comment garantir les droits des personnes à vivre en famille, voilà, tout en, là aussi, multipliant les mesures d'éloignement. Et donc, toutes ces contradictions oblige d'une certaine manière la politique d'immigration à s'organiser de telle façon à laisser de plus en plus de marge de manœuvre aux agents subalternes pour résoudre ces contradictions que, d'une certaine manière, le législateur ou en tout cas les hauts fonctionnaires n'ont pas voulu résoudre parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que il n'est pas possible d'écrire dans le droit des choses qui soient, c'est compliqué, explicitement contraire, formellement contraire à ces conventions internationales dont la France est signataire. Et donc, c'est d'une certaine manière, on délègue à ces agents subalternes ces contradictions, et c'est au niveau des guichets que ces contradictions vont se résoudre.
Mais pourtant, ces contradictions, elles ont été plus ou moins pensées. Tu évoques des hauts fonctionnaires. Qui c'est qui sont derrière ces... est-ce que tu t'es intéressé justement à la production du dispositif qui a conduit à ce fonctionnement dissymétrique au sein des guichets?
Elles sont pensées, oui et non. C'est-à-dire que le problème, c'est que il y a une espèce de fuite en avant dans le discours discours politique, hein, de ce que certains appellent la xénophobie d'État, et sur le fait que la figure de l'étranger érigé comme fraudeur systématique. Et on le retrouve, en fait, hein, la question de la fraude dans les débats parlementaires. C'est ce qui justifie les contrôles sur les mariages mixtes. Et donc, du coup, là aussi, hein, les obstacles, la démultiplication des obstacles mis sur la route des conjoints de Français qui veulent accéder à un titre de séjour. Donc, mais voilà, au-delà de ça, il y a un certain nombre de normes de droit qui s'imposent à ces politiques et avec lesquelles ils doivent composer, en fait. Alors, en plus, et je dis ils doivent composer, mais pour certains, ils n'ont pas de culture juridique, en fait. La culture juridique, elle n'est pas... c'est pas ce qu'il y a de mieux répandu, on va dire, dans notre classe politique, hein, et là, pour le coup, c'est pas propre à l'immigration. Et donc on assiste assez régulièrement, hein, à des débats politiques ou même à des mesures législatives qui sont prises et qui sont parfois en contradiction avec ces normes, et du même coup qui sont amenées à être censurées à plusieurs reprises, hein. Les législations sur l'immigration ont été censurées par le Conseil constitutionnel ou par le Conseil d'État parce qu'elles violaient ouvertement justement des normes fondamentales. Donc voilà, ils en ont conscience ou pas conscience selon le niveau de culture juridique, mais toujours est-il que d'une certaine manière, ils mettent cette contrainte-là de côté, on va dire, ou en tout cas ils les prennent comme une contrainte, et tout occupés qu'ils sont d'une certaine manière à se consacrer à la fuite en avant dans la question des politiques d'immigration et de la maîtrise des flux migratoires, et encore une fois avec ce qu'elle peut décliner de plus sordide dans les années récentes, hein.
Mais il y a un travail intellectuel, une réflexion de la part de ceux qui élaborent ou proposent ce type de dispositif. Est-ce qu'il y a des think tanks, je ne sais pas comment on appelle ça, des gens qui proposent aux politiques un certain nombre de mesures parce qu'ils jugent que ça correspond à la politique que certains politiques veulent mettre en avant?
Alors, au niveau européen, il y a des think tanks sur ce qui servent un peu à insuffler des idées en matière de politique d'immigration. Au niveau français, je ne crois pas. Je crois que... alors, est-ce que c'est conscient? Il y a une espèce d'expertise bureaucratique qui fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui remontent de la part de hauts fonctionnaires, on va dire. Mais d'une manière générale, ce qui est extrêmement frappant, c'est la méconnaissance, en fait, de la part des politiques ou de la part des hauts fonctionnaires, en fait, de la vie de ces services et des contraintes qui sont celles de ces services, qui sont... bien souvent, en fait, même pas discuté, même pas abordé, en fait. Hein. Je vais prendre un exemple, et je pense pas que ce soit conscient, et je pense que c'est assez caractéristique. Le législateur, à un moment donné, a décidé que pour accéder à une carte de 10 ans, il faudrait non plus 3 fois une carte d'un an, mais 5 fois une carte d'un an. C'est la loi Sarkozy 2002, je crois, ou 2003. Donc, on repousse, on comprend bien pourquoi, parce qu'il faut que les étrangers soient intégrés, donc voilà, enfin on comprend bien la logique. Ce que il a absolument pas vu quand il a fait ça, c'est que par cette seule, il pensait en fait rendre plus compliqué l'accès à la carte de 10 ans, donc compliquer la vie des étrangers. Ce qu'il a absolument pas vu, et je crois vraiment que c'était totalement inconscient quand cette mesure a été prise, c'est que du même coup, il multipliait par deux le nombre d'étrangers qui allaient se présenter en préfecture, mécaniquement, puisque désormais, les personnes devraient se représenter encore la quatrième année, puis la cinquième année, puis etc., etc., quand on sait le nombre de preuves qui sont exigées. Donc, gonfler les queues de préfecture à moyens humains et matériels constants, ça veut dire organiser, en fait... consciemment ou inconsciemment, mais la saturation totale de ces services, en fait. Je pense que c'est assez caractéristique, là aussi, de la méconnaissance des implications, pratiques que peut avoir cette surenchère législative dans la lutte contre l'immigration irrégulière.
J'avais une autre question par rapport à la juridiction. Quand, par exemple, il y a la circulaire de régularisation des familles d'enfants scolarisés le 13 juin 2006, suite à la mobilisation de RESF, là, c'est ce que vous montrez, c'est que cette circulaire, en fait, est difficilement applicable puisqu'il y a des choses qui restent très floues. Mais là, et elle était faite pour, j'ai dire de, pour répondre à une sorte de stratégie parlementaire pour contenter cette mobilisation. Mais est-ce que concrètement, ça a été pensé très rapidement et donc ils savaient que ça allait être difficilement applicable, ou alors c'était complètement inconscient et c'était dû à leur manque de connaissances juridiques?
Non, là aussi, c'est assez symptomatique de ce qu'est la politique d'immigration. Si on prend l'exemple de cette circulaire, cette circulaire, elle intervient à un moment où le gouvernement veut durcir la politique d'immigration, où RESF est très mobilisé. RESF a des relais au sein de certains élus MoDem qui disent d'emblée que le placement d'enfants en rétention, les agents de préfecture qui vont chercher les enfants à l'école, ça leur convient pas du tout et qu'ils veulent que ça cesse, et que donc ils ne suivront pas le gouvernement sur le durcissement législatif. Et donc, en signe de pour faire passer la nouvelle loi, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Sarkozy en l'occurrence, décide de faire une concession et de faire une circulaire de régularisation pour les familles et pour les enfants des familles. Il a dans la tête le fait qu'il fait une concession pour pouvoir faire passer au niveau parlementaire sa loi. Ensuite, la façon dont elle va être appliquée, d'une certaine manière, c'est secondaire. Il se dit qu'il ne voudra pas, il faudra pas en faire une régularisation, mais c'est totalement secondaire. Et donc, il écrit une circulaire qui est extrêmement floue, où il y a 6 critères, sans qu'il soit précisé s'il faut que les 6 soient réunis en même temps, ou un des 6, ou 2 des 6, ou 3 des 6. Ce qui fait que... Et elle est écrite rapidement. Elle n'est pas écrite pour qu'il se passe des choses différentes dans tous les départements. De fait, c'est ce qui va se passer. Elle est écrite un peu dans l'urgence, parce qu'elle est écrite à une autre fin que la seule question de la régularisation. Et les faits, c'est assez symptomatique. C'est que du même coup, les préfectures vont interpréter très diversement cette circulaire, et que, passé un moment et un certain niveau de nombre de régularisations, le ministère de l'Intérieur va décider que maintenant c'est terminé et que donc plus aucune régularisation, avec des très fortes inégalités à la fois d'un département à l'autre, et puis surtout selon si on a déposé son dossier au début du mois de juillet ou à la fin, les probabilités d'obtenir une régularisation qui changent du tout au tout.
Amra, 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 al-girba. Hey, kilowatt, shahmaq. Vous êtes toujours sur FPP, Fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front. On s'est aventuré, on est toujours donc avec Alexis Spire pour parler des guichets de l'immigration. On s'est aventuré dans le domaine législatif, du côté de ceux qui font les lois et par conséquent qui créent ce flou juridique avec lequel les guichetiers doivent composer au quotidien. Justement, retournons du côté des guichetiers.
En fait, on apprend dans ton livre que les agents de la préfecture, les guichetiers, n'ont pas forcément de formation et qu'ils apprennent en fait sur le tas, donc des habitus qu'ils reproduisent et qu'au final, la relation avec la personne qui se présente au guichet est basée donc en fait sur une idée de maintien de l'ordre et non sur l'idée de fournir un service ou d'accorder un droit.
Ouais, ça là aussi, c'est quelque chose de très important. C'est la question de la formation des agents et de la façon dont l'institution les transforme. Et c'est vrai que ce qui est frappant en fait en matière d'immigration, c'est qu'on a affaire à une matière qui est extrêmement juridique, extrêmement juridicisée, avec pour la question, enfin la moindre question d'accès au séjour pour soins, des normes. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, des normes de droit international, des décrets, des circulaires, de la jurisprudence. Des décisions de tribunaux administratifs, de cours d'appel, etc., etc. Et pour appliquer ce droit, cette matière extrêmement juridicisée, on a des agents qui effectivement n'ont aucune culture juridique et qui donc sont extrêmement démunis et sont obligés de se placer sur un autre plan en fait. Et ça, c'est très frappant. Quelles que soient leurs options, d'une certaine manière, et si, quelle que soit disons, leur volonté d'accueillir ou de reconduire la personne, ils sont dans l'impossibilité de se positionner juridiquement. Et donc, ils doivent le faire en fonction, le plus souvent, en fonction de routines bureaucratiques, de ce qui se fait dans le service. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais justement agent de guichet, le fait que je voyais très bien qu'on me demandait de faire des choses illégales, qui étaient contraires au droit, en l'occurrence, exiger d'un demandeur d'asile son passeport ou concernant sa domiciliation, exiger une domiciliation réelle et refuser les domiciliations associatives. Enfin voilà, j'ai plusieurs exemples comme ça. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, la question du droit était absolument pas pertinente, en fait, dans ce contexte-là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est totalement déconnecté du droit, mais simplement, c'est un lien qui est extrêmement indirect, dans le sens où, finalement, ce qui représente le droit, c'est bien souvent incarné dans la circulaire. Circulaire qui, en fait, est essentiellement connue par le chef de bureau, qui va jouer le rôle d'interprète et qui va traduire cette circulaire auprès des agents, auprès des guichets, en leur disant, voilà, bon, pour tel cas, donc la circulaire, pour tel type de cas, dit qu'il faut faire comme ci, comme ci et comme ça. Donc on voit bien que, en fait, il y a bien une référence juridique, mais elle est extrêmement lointaine, elle est extrêmement indirecte, et du même coup, ça, là aussi, ça crée une situation qui explique pour partie le fait que la matière immigration est devenue depuis 2002 et de loin le premier motif de recours au tribunal administratif, loin devant tous les autres, parce que ça crée aussi des formes d'illégalité de la part de l'administration qui donne lieu à des recours et donc qui donne lieu à un autre pan de la politique d'immigration et que j'essaye de soulever dans ce livre, hein, qui est ce qui se passe ensuite au niveau des tribunaux administratifs, où on ne peut plus dire que, comme ça a été longtemps le cas, on a devant les tribunaux administratifs des choses résiduelles de quelques mesures qui sont contestées. C'est désormais, disons, une activité à part entière de la politique d'immigration.
Non, juste par rapport à ce que tu viens de dire là, sur les chefs de service, les circulaires, ça veut dire que les guichetiers ne lisent pas tout simplement les textes, n'ont pas accès, on ne leur donne pas les informations juridiques qui doivent encadrer là, normalement la pratique de leur travail.
Alors là, il faut peut-être faire des différences un peu selon les services. Pour l'instant, je n'en ai pas faites. En préfecture, c'est extrêmement clair que les guichets n'ont pas accès à ça, ils n'ont pas de culture juridique et leur pratique repose essentiellement sur ce que j'appelle une jurisprudence bureaucratique, c'est-à-dire des cas simples d'étrangers dans tel et tel type de cas, on fait comme ça, et dans tel et tel type de cas, on fait comme ça. Ça se traduit essentiellement comme ça. Alors il y a d'autres services, notamment en matière de naturalisation ou en matière de reconnaissance du statut de réfugié, où les agents qui sont recrutés sur des bases de maîtrise, de connaissances juridiques. Parce que on a affaire à des matières qui d'abord donnent lieu à des demandes beaucoup moins nombreuses, et puis à des matières beaucoup plus juridiques et à des institutions particulières. Donc là, si je dis ça, c'est essentiellement pour la préfecture et les agents de consulat, en fait. Où là, c'est très frappant, et on pourrait dire aussi les directions départementales de l'emploi et de la main-d'œuvre. Mais un peu moins, parce qu'en général, c'est chapeauté par des contrôleurs du travail, et donc il y a quand même une conscience du droit qui est plus importante, on va dire, dans les directions d'emploi. Mais en tout cas, pour ce qui est des préfectures et des consulats, c'est quelque chose d'extrêmement frappant, l'absence de culture juridique et du même coup l'absence même de référence au droit qui existe dans ces services.
Voici le coin de boue où dormait mon front fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière.
te rapporte un peu de cœur. Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes vieux copains. Je vous reviens avec ma gueule de paladin solitaire. Et je sais que ce soir monteront des chants infernaux au hurlement des vents par les cris de décembre. Au hurlement des vents par les cris de décembre. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs. Me voici au fossé, où n'a qui ma misère. Voici le coin debout, où dormait mon front fier. Voici ma vie à moi, la cendrée en poussière. Horizons lourds, mes vieilles vaches de chimère. J'ai suivi l'oiseau des tropiques aux randonnées sublimes. Et me voici sanglant avec des meurtrissures. Ainsi fleurit l'espoir en mon jardin pourri. Ainsi en mon jardin pourri fleurit l'espoir. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs. Me voici au
Voilà, nous étions ce soir dans les oreilles loin du front en compagnie du sociologue Alexis Spire pour parler des guichets de l'immigration, et nous le serons également mercredi prochain pour un second volet autour de la question idéologique. Nous verrons comment se fabrique la cohésion idéologique qui semble se dégager des services de visa, des guichets de préfecture et des bureaux de main-d'œuvre étrangère, et nous parlerons donc de cette adhésion au maintien de l'ordre moral et national, et nous verrons comment les guichetiers s'inscrivent dans cette politique du chiffre menée par l'État. En attendant mercredi prochain, on ne peut que vous conseiller de lire l'ouvrage d'Alexis Spire publié l'année dernière dans la collection Raison d'agir, Accueillir ou reconduire, enquête sur les guichets de l'immigration.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était une nouvelle édition des Oreilles loin du front. On se retrouve donc la semaine prochaine donc, pour le deuxième volet de cette émission. Autour des micros et des boutons, on avait Sophie, on avait Juliette, Guillaume et Aude. Et vous pouvez nous retrouver donc en rediffusion le vendredi matin de 8h30 à 10h.
Ouais, c'est tôt ça.
C'est tôt, mais c'est pour les travailleurs, Guillaume. Ils se lèvent tôt. C'est pour la France qui se lève tôt, donc on y pense nous aussi. Sur cette même antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3, vendredi 8h30-10h pour nous réécouter. Et puis aussi notre site internet qui va bientôt être à jour, sur lequel vous pouvez réécouter un nombre impressionnant d'émissions. C'est donc www.loldf.org, et on vous laisse dans les bras des échos du Capricorne.